Bonjour chers auditeurs pour ce nouveau Libre Journal du jeudi. Aujourd'hui une émission consacrée à deux thèmes. Le premier qui va certainement déchaîner les passions puisque j'ai déjà invité à cette même antenne Pierre Gentillet, Thionnet et aussi Jérôme Sainte-Marie sur la question de savoir si le Rassemblement National virait au libéralisme. Et j'ai maintenant la quatrième personne, si j'ose dire, qui s'est prêtée à mon jeu de savoir si effectivement le Rassemblement National vire-t-il au libéralisme. J'ai en la présence de Andrea Cotarac, qui est porte-parole du Rassemblement National et membre du cabinet de Marine Le Pen. Cette émission est préenregistrée, en tout cas cette première partie est enregistrée. La deuxième partie sera en direct avec Thierry Bouclier, qui est avocat, auteur de la biographie Michel de Saint-Pierre, édition Via Romana. Michel de Saint-Pierre qu'on connaît peu, qui est méconnu malheureusement aujourd'hui, qu'il faudrait essayer de restituer à la vie, et qui est un écrivain catholique français, un aristocrate et un ouvrier dans sa jeunesse, puisqu'il travaillait sur les chantiers de Saint-Nazaire. Les deux parties d'ailleurs ne sont pas complètement indépendantes l'une de l'autre. Mais je commence par Andrea Cotarac. Je disais que j'avais invité donc plusieurs membres du RN ces derniers mois et qu'à la question le Rassemblement National évolue-t-il vers le libéralisme, je n'avais pas obtenu de réponse très claire ou très tranchée, même avec des nuances. Ils étaient de bonne composition, mais j'arrivais pas vraiment à bien discerner quel était le programme qui était celui du RN, ou qui allait peut-être s'élaborer au fur et à mesure avec le RN dans les mois qui viennent. Mais d'ores et déjà, vous ayant vu dans une émission de France 5 chez Rissouy et Adler, vous étiez contre quatre personnes plus les animateurs et vous en avez fait qu'une bouchée. Oh, je veux dire que vous étiez vraiment la vieille sorcière maléfique. Laura Adler ne cessait de rigoler, de se foutre de vous et vous auriez votre sérieux et vous la remettiez dans ses lignes et vous avez fait pareil avec les autres invités. Un autre invité d'ailleurs qui n'était pas forcément en désaccord avec vous. Bon, mais c'est à cette occasion que je me suis dit, il faut absolument que je l'invite pour qu'il me donne satisfaction peut-être, ou infirmer ce que je pense. Est-ce qu'aujourd'hui le RN vire au libéralisme ?
Non, bah, je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Alors, c'est facile d'être meilleur que Laura Adler, si vous me le permettez. Ouais. C'est un peu plus compliqué d'être meilleur que Thionnet, Gentillet, Sainte-Marie, qui sont des camarades. Avec sous leurs cheveux des cerveaux qui tournent à toute berzingue. Mais je vous remercie de m'avoir invité. Alors, si ça n'a pas été clair, c'est peut-être parce qu'on a un programme qui est clair, on a des sources d'inspiration étrangères, des sources d'inspiration économiques, historiques dans le programme du Rassemblement National. Il était assez complet d'ailleurs en 2022, puisqu'il y avait d'innombrables livrets thématiques, hein, pas simplement économiques, mais aussi sur toutes les thématiques. On relance cette production d'idées. Je pense qu'on va beaucoup surprendre, mais pour l'instant c'est en chantier, ça a bien avancé. Et puis vous savez qu'on attend la décision du 7 juillet pour savoir qui est candidat. Et je pense que chacun de vos auditeurs...
Marine Le Pen ou Jordan Bardella.
Exactement, chacun de nos auditeurs peut aussi comprendre que quand on est candidat à la présidentielle, on arbitre certaines thématiques, on a des préférences thématiques, on veut prioriser tel thème plutôt qu'un autre. En tout état de cause, c'est qu'on a une philosophie du Rassemblement National qui est très claire et que le service public audiovisuel n'a pas bien compris ou en tout cas essayé de caricaturer. Il n'en reste pas moins qu'ils m'apparaissent, moi, comme des feignasses.
Ouais. Voilà. Ils ne travaillent pas,
ils se reposent sur des caricatures. Alors oui, ça fait plaisir, on peut faire des fronts républicains, on peut être tout beau, tout joli quand on est un acteur et faire une tribune, c'est bien, d'accord. Mais quand on veut s'attaquer à nous en débat, en direct, ça marche pas. En tout cas, c'est pas suffisamment que d'être une petite feignasse des quartiers bobos parisiens. Voilà, ça suffit pas.
Ou journaliste d'ailleurs.
Ou journaliste, oui, c'est vrai. On peut être bobo et journaliste et de gauche. En tout cas, j'en ai fait l'expérience sur le service public.
J'avoue que durant cette émission dont je parlais, vous avez développé tout un programme qui date peut-être de 2002 ou qui n'est pas exactement aujourd'hui 2022, opérationnel. Et qui justement montre toutes les mesures sociales qu'envisage de mettre en force et en place le Rassemblement National. Je pense par exemple à une formule qui avait été utilisée par Marine Le Pen en en 2012, mais qui est peut-être un petit peu aujourd'hui mis de côté, je ne sais pas, vous me le direz, elle était favorable à la suppression des parachutes dorés, des stock options et des retraites chapeaux. Alors évidemment, ça a fait beaucoup de bruit, parce que les grands milliardaires du CAC 40 et autres râlaient un peu. Et puis on a vu Marine Le Pen tout récemment aller déjeuner avec Bernard Arnault, rencontrer les grands patrons. Jordan Bardella a rencontré les actionnaires du CAC 40, ne plus être d'accord sur la retraite à 62 alors qu'elle avait été déjà à 60. C'était peut-être d'ailleurs une opposition entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, vous me le direz. Bref, on ne sait plus très bien où on en est. Alors, est-ce qu'aujourd'hui la France Insoumise est un parti plus social que le RN, ou est-ce que le RN a intérêt à revenir à ses sources initiales du catholicisme social, du gaullisme, de toutes les références historiques qui ont prévalu jusque-là dans la droite nationale? Et est-ce qu'elle peut aujourd'hui faire un petit peu, est-ce qu'elle peut rivaliser avec la France Insoumise? France Insoumise, d'ailleurs, dont je rappelle que vous avez été un des membres, oui, et que vous avez quitté pour des raisons d'ailleurs d'identité, d'immigration, tout en restant assez social vous-même.
Oui, tout à fait. Alors, pour revenir, vous me dites que Marine Le Pen, en 2012, avait dit que les retraites chapeaux, les stock options étaient indignes. Mais moi, je vous le dis, en 2026, on est aujourd'hui la même chose. Et même plus encore, parce que je pense qu'il y a une fibre de justice sociale qui existe dans ce pays depuis des siècles et des siècles. On a, même dans la culture catholique, bien des bâtiments, bien des institutions qui, dès le Moyen-Âge, essayaient de... sauver des personnes les plus démunies. Et donc on a une fibre sociale en France, je précise, parce qu'on était souvent très en avance.
À travers les corporations,
exactement,
notamment.
Exactement.
Vu le syndicalisme naissant après.
Vous regardez l'Hôtel Dieu à Lyon, même à Paris, on a eu toute cette vocation d'aller soigner celui qui n'avait pas les moyens, par exemple, de se soigner. Dans l'éducation, on a eu des moines qui ont essayé d'apprendre telle ou telle chose aux plus démunis. Donc on a cette culture et cette justice sociale en France qui, à mon avis, fait partie de l'esprit français.
Et qu'on retrouve même dans le Conseil national de la Résistance.
Complètement, hein.
Je parlais du gaullisme, mais c'est aussi une des références.
Vous avez parfaitement raison, vraiment, au fil des siècles, jusque même au Conseil national de la Résistance, et jusqu'à nous, je crois, au Rassemblement national, on a cette fibre-là. Effectivement, Marine Le Pen, quand elle dit « mais... » quelqu'un qui est PDG, qui a de mauvais résultats et qui part avec plusieurs millions ou centaines parfois de millions suivant la taille de l'entreprise, on peut se poser la question ouvertement, est-ce qu'il le mérite vraiment? Une question morale. Est-ce que c'est acceptable, opportun et moral qu'une personne parte avec 500 SMIC à la suite de résultats catastrophiques de l'entreprise à laquelle il était numéro un? Donc tout ça sont des questions quand même qui existent encore et que les Français se posent, j'en suis certain, à la fois dans les églises, mais aussi dans les écoles, dans les institutions, dans les universités et dans les partis politiques. J'en fais partie. Effectivement, alors il y a une autre dimension sur l'immigration. Vous m'avez dit, effectivement, j'ai quitté LFI pour des raisons d'immigration identitaire. Mélenchon expliquait que le voile, par exemple, en 2010 sur Cato TV, justement, moralement, philosophiquement, pouvait poser problème, disait-il. Je mets entre guillemets, puisque c'est son mot, dans l'égalité entre les hommes et les femmes, etc.
Mais ça, c'était avant sa période wokiste.
Ah bah c'était 2010,
ouais.
Vous voyez.
Où il était peinturé de bleu, blanc, rouge.
Bien sûr. Et le même Mélenchon nous explique aujourd'hui que s'attaquer au port du voile, c'est islamophobe. On a un Mélenchon dans Le Monde qui expliquait que le burkini était un affichage militant. Donc il faisait bien islamiste, militant, politique. Aujourd'hui, il explique s'attaquer au burkini, c'est être islamophobe. Et même le terme islamophobe, il le rejetait en 2015, expliquant qu'on avait le droit de critiquer des textes sacrés en France. Christianophobe, islamophobe. Un anarchiste, par exemple, a le droit, en France,
christianophobe,
d'avoir peur dans les religions, par exemple.
Vous savez, Andrea, Philippe Muret disait que nous vivions une époque où la cageophobe n'avait jamais été aussi puissante. On appelle toujours quelqu'un avec qui l'on n'est pas d'accord, on l'appelle islamophobe, catophobe, judéophobe, etc. Ça ne veut plus rien dire, cette espèce de phobie systématique. Et malheureusement, le politiquement correct l'utilise encore aujourd'hui pour discréditer ses adversaires.
Oui, tout à fait, et ça rejoint un peu la première thématique qu'on a abordée, c'est la fainéantise. Ouais, les feignasses, ouais. C'est tellement plus simple de dire vous êtes judéophobe, islamophobe, christi... Enfin, à un moment donné, on est aussi dans un pays où le soleil ne se couche jamais. On a des problématiques sur la Terre entière. Il faut savoir comment est-ce que la France se place dans le monde. On est en retard sur la robotique, par exemple. Alors, j'ai travaillé un peu là-dessus, mais on a des siècles de retard. Aujourd'hui, la France devrait plutôt demander des transferts de technologie vers elle. Enfin, il faut se rendre compte de tout ça. Non, on se pose la question de savoir si on est islamophobe ou autre. Enfin, ça peut peut-être bénéficier à Mélenchon, et ça lui a bénéficié, cet électorat, cette stratégie communautariste.
Pour l'instant, 75% des immigrés extra-européens votent pour Mélenchon.
À court terme, c'est bien. Ouais. Mais à moyen long terme, pour notre pays, je pense que c'est catastrophique. Et moi, entre Mélenchon et mon pays, j'ai choisi mon pays. Voilà.
Et entre les Français de souche d'un côté et les Français de papier qui vont être naturalisés Français, il y a la place pour avoir dans la communauté nationale chacun son rôle à jouer.
Oui, hein? Mais moi, j'ai pas trop apprécié ce que c'est Mélenchon, parce que ils ont fait primer la couleur de peau, la religion, avant le fait d'être français.
Ouais.
Et moi, je me considère, alors on a galvaudé ce terme, mais patriote, voire nationaliste, la nation importe pour moi, et on est pour moi d'abord français, avant d'être telle ou telle religion, athée ou autre. Et vous l'avez remarqué, je me souviens, pendant les Black Lives Matter, vous vous souvenez ? Ce truc qui nous venait des États-Unis, là, un truc ignoble. On avait, place de la Bastille, une foule de gauchistes qui avaient alpagué un CRS de couleur noire,
ouais,
en lui disant « traître, vendu ». Tu es policier de couleur noire, tu es un vendu. Ils font passer la couleur de peau avant l'uniforme français, républicain, ce que vous voulez. Or, ceux qui ont défendu ce CRS de couleur noire, c'est d'abord le Rassemblement National. Donc on a vraiment une différence avec la France insoumise. Et j'ose aller plus loin, même si c'est différent, parce que là c'est un crime de sang et un acte terroriste. Mais Mohamed Merah, quand il attaque et tue sa première victime, il le tue, c'est un militaire français de confession musulmane, et il le dit lui-même, je le tue parce qu'il est musulman et qu'il ne doit pas porter l'uniforme militaire français. Donc vous voyez, il y a, toute proportion gardée, j'entends bien, il y a des insultes d'un côté et un crime de sang, un terrorisme de l'autre, mais je parle sur le fond politique. Mohamed Merah fait passer la religion avant le fait d'être français, comme Daesh, hein, vous vous souvenez, ils avaient fait des autodafés de passeport, parce que pour les nations, importait peu. Et de l'autre côté, on a des gauchistes nourris avec des thèmes qui nous viennent des États-Unis, les Black Lives Matter, le wokisme et autres, qui sont en train de fracturer la nation française.
Par communautarisme. Et le communautarisme, c'est ce qui empêche précisément de s'affirmer les communautés, parce qu'on dévalue les communautés à mesure qu'on privilégie le communautarisme. L'enfermement sur soi devient non plus l'affirmation de soi, mais la négation de soi-même.
Totalement d'accord, totalement d'accord. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué vous-même, mais la stratégie communautariste, elle a aussi ses limites, hein, pour Mélenchon. Parce que c'est bien de dire les immigrés extra-européens voteraient pour Mélenchon, d'accord, mais entre eux. Vous vous souvenez de Mélenchon qui est allé au Maroc ? On lui a dit, monsieur Mélenchon, vous êtes d'accord avec monsieur Macron qui reconnaît le Sahara occidental comme le Maroc, souveraineté marocaine ? S'il dit oui, certes, il fera plaisir à ses hôtes marocains, mais par contre, il va oublier l'électorat algérien. Hein. Donc, on a un Mélenchon qui était comme un enfant en CE2 et qui n'osait pas répondre à son instituteur. Ça a ses limites. Il faut affirmer la France, affirmer le peuple français et répondre aux problématiques du peuple français, parce que dire qu'il y a une nouvelle France, merci monsieur Évidence, mais vous faites quoi sur la sécurité, vous faites quoi sur l'immigration, vous faites quoi sur... Il n'y a pas de projet, voilà. Nouvelle France, c'est pas un projet, et même dans l'électorat immigré extra-européen, c'est pas quelque chose d'uniforme et d'homogène, donc tout ça va à sa perte.
Mais vous ne croyez pas qu'à part, évidemment, de très nombreux immigrés extra-européens qui s'adonnent à l'insécurité, à la délinquance, à la drogue, au terrorisme, et ça en fait quand même beaucoup, qui ne sont pas naturalisés ou certains qui le sont aussi, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une certaine proportion d'immigrés extra-européens qui, en renouant avec leur communauté d'appartenance sur le plan spirituel, culturel, etc., peuvent, à travers la religion, la famille, le clan, la communauté, ne pas s'adonner justement à ces mêmes délits, à ces mêmes insécurités, violences, conflits qu'il peut y avoir dans la société française.
Il faut se poser des questions. Moi, j'ai regardé le rapport de l'INSEE sur l'immigration, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Très instructif, alors il faut... C'est politiquement correct, donc il faut traduire toutes les phrases, mais il y a des tableaux et c'est assez clair. Vous remarquerez que, par exemple, dans la confiance dans les institutions, j'ai de mémoire, il y avait immigrés Afrique du Nord, immigrés Afrique subsaharienne, Asie, etc. Et on voyait dans chaque colonne, il y avait police, justice, école, etc. Confiance dans les institutions. Vous voyez que la première génération avait confiance dans l'État français, dans la police, dans la justice, dans l'école. La deuxième génération, un peu moins. La troisième, encore un peu moins. La quatrième, encore un peu moins. Ça, c'est pour Maghreb, Afrique noire. Mais vous prenez le cas des Asiatiques, par exemple, c'est l'inverse. Il y avait peu de confiance, et plus les générations passent, plus ils avaient confiance. Et vous me parlez de famille, c'est très intéressant, parce qu'on a par exemple, moi je reconnais que la communauté nationale, on est bien d'accord, mais on voit dans ce tableau chez les immigrés d'origine turque, par exemple, où la famille est très puissante, qu'ils ont plus de confiance dans la troisième génération que dans le français de souche, dans l'école, par exemple. Donc vous voyez, je crois au contraire que, pour certaines origines, c'est le manque de cadre familial, le manque d'insertion dans la société.
N'ayons pas peur du mot intégration communautaire, mais qui ne va pas avec le communautarisme, qui s'associe à la loi commune.
Bien sûr. Vous avez des immigrés, par exemple, algériens, vous savez, le FLN et compagnie, d'accord, mais c'était des socialistes plutôt laïcs. D'ailleurs, ils ont fait une guerre dans les années 80 contre les islamistes. Où vous avez la grand-mère qui était là, qui travaillait, qui était intégrée dans la France. Et puis, vous voyez aujourd'hui que son arrière-petite-fille est voilée de la tête aux pieds et fait plus penser au fils, le Front islamique du salut algérien, qu'au FLN. Donc, vous voyez une désintégration par génération. Cela là dit, encore, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'INSEE. Hein.
Cela dit, la burqa a quand même été interdite. Dans l'espace public, a priori, elle devrait être retirée. Alors qu'elle ne soit pas faite comme elle devrait l'être, ça c'est une évidence. Mais a priori, la loi proscrit le voile intégral dans l'espace public.
Ça, je peux le dire aisément sur Radio Courtoisie, puisqu'on est à Paris, mais j'ai travaillé à Vénissieux, par exemple. Certes, il y en avait peu, peut-être deux, trois, peut-être même c'était la même, puisqu'on ne peut pas savoir. Mais tous les jours, je voyais une femme intégralement voilée. Tous les jours. Ah ouais. Donc oui, c'est interdit, mais on va dire que c'est toléré parfois, ouais, puisque j'ai vu à Vau-en-Velin, je l'ai vu à Vénissieux.
C'est un peu comme les prostituées. Interdit, mais toléré.
Oui, enfin bon, les prostituées ne font pas d'attentats, ne sont pas financées par le Qatar
mais
ou par d'autres pays.
Mais n'ont pas non plus les mêmes
mœurs. Et n'ont pas de mêmes mœurs, et encore, quoique. Mais en tout cas, n'ont pas de professeurs, etc. C'est d'ailleurs le problème de la gauche, je l'ai remarqué, puisque j'ai eu l'avantage de faire les deux. Ils minimisent l'islamisme. C'est-à-dire l'islam politique. Pour eux, c'est, je vais parler vulgairement, 3-4 racailles désorientées, un peu fofolles, qui ceci ou cela. D'accord, ces racailles désorientées, mais avant ça, il ne faut pas minimiser ou les prendre pour des faibles. L'islamisme a un financement, ils ont des universités, ils ont des professeurs, ils ont une stratégie, et il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Jamais. Et je constate que la gauche sous-estime très nettement ce phénomène islamiste, qui n'est pas que d'ailleurs franco-français, qui est mondial.
Alors ce serait un long débat que nous pourrions faire prochainement, parce que je sais qu'il y a plusieurs thèmes qui vous sont chers, l'écologie, oui, la question sociale dont nous parlons, et puis encore d'autres, le localisme,
tout à fait,
qui fait la... qui jouxtait en quelque sorte à l'écologie. Pour revenir à la question sociale, vous ne croyez pas à la théorie du ruissellement. Est-ce qu'aujourd'hui les Français sont de plus en plus nombreux à s'appauvrir au moment où d'autres Français, 9 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté, s'enrichissent? Est-ce que la condition de l'un n'est pas la condition des autres? Et là, ça nous renvoie effectivement aux trois suppressions dont je parlais tout à l'heure et que Marine Le Pen avait mis en avant.
Mais la théorie du ruissellement, c'est Emmanuel Macron qui l'avait mise en avant et sortie. C'est pas que j'y crois pas ou que j'y crois, c'est qu'en fait, ça marche pas. Là, on est peut-être à la 10e année, bientôt 9e année de macronisme. Vous voyez bien que ça ne marche pas, puisque la France, c'est le pays d'Europe qui a le plus grand nombre de millionnaires. Mais on a le taux de pauvreté record jamais enregistré depuis 1996. Là aussi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE.
30 ans.
Donc vous voyez bien quand même que le macronisme n'a pas fonctionné. On voit d'ailleurs sur le taux de pauvreté, mais moi, je ne suis pas un marxiste. Je vois aussi qu'il y a des défaillances d'entreprises. Record. On a des chefs d'entreprise qui n'y arrivent plus, parce qu'il y a des charges qui sont énormes, il faut le dire. Et qui ne s'en sortent pas. On a un coût de l'énergie qui est quand même la base de tout. Vous ne pouvez pas dire je veux réindustrialiser le pays et vous avez une énergie extrêmement chère. Ça ne marche pas. Un investisseur, il vient, mais il regarde d'abord l'énergie. Donc, on a cette capacité en France d'avoir un coût de l'énergie, un prix extrêmement bas grâce au nucléaire. Bah, mettons-le en avant plutôt que de suivre Mme von der Leyen. Donc, vous voyez, tous les feux sont au rouge. Les Français, moi, quand j'étais gosse, mes parents me disaient oui, on paye des impôts, hein, mon petit, mais t'es bien content quand même qu'il y ait un professeur pour t'enseigner à l'école. T'es bien content quand même de pouvoir te déplacer avec une gare. T'es bien content pourtant d'aller aux urgences et qu'on te prenne en charge quand il y a vraiment une urgence. Bon, bah aujourd'hui, on n'a jamais autant payé d'impôts, mais les services publics se cassent la gueule.
Et puis la mondialisation, l'immigration ont favorisé la libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux et des services, justement.
Tout à fait.
Et là, on a affaire à une population nomade et de monade isolée qui sont broyées dans le grand mortier du mondialisme mortifère.
C'est une évidence. Et tout à l'heure, les urgences aujourd'hui n'ont plus que le nom. C'est plus des urgences. Vous attendez 16 heures avant d'être pris en charge parce que vous n'avez pas de médecin, parce que ceci ou parce que cela. Donc c'est un vrai problème. L'immigration, vous ne pouvez pas faire venir 500 000 personnes par an et vous dire on va supprimer en même temps des lits d'hôpitaux. Enfin, ce n'est pas possible. Hein. Ces gens-là seront à l'école. Et c'est pas possible. En tout cas, ça va peser sur les services publics. Et d'ailleurs, là où Mélenchon fait une réponse, pardonnez-moi du terme, de boomer à Jordan Bardella sur Twitter, sur le droit du sol, droit du sang, Mélenchon dit « Mais comment ça? Vous êtes contre le droit du sol, c'est ça la France, monsieur Bardella, vous êtes dépassé, etc. » À Mayotte, la maternité de Mamoudzou est la plus grande maternité de toute l'Union européenne. Pourquoi? Parce que 80% des naissances viennent des Comores, donc des immigrés clandestins, parce qu'il y avait justement ce droit du sol. Je ne sais pas comment cette maternité tient encore debout, comment est-ce qu'il n'y a pas eu plus de drames, mais vous voyez bien que l'immigration pèse sur nos services publics, et là aussi sur la France insoumise, on aborde souvent l'immigration au RN comme un problème d'identité. On l'a vu, on a parlé de burqa, on peut parler aussi de bien d'autres thématiques, on a le film sur Samuel Paty qui est sorti aussi, on peut en parler, c'est un Tchétchène qui lui a découpé la tête, hein, parce que j'aime bien utiliser les vrais termes, découpé la tête sur un trottoir. Donc on peut parler de l'identité, c'est une évidence, mais on peut parler aussi de social. Didier Lesky, qui était proche de Macron à l'époque, hein, le patron de l'Office de l'immigration, lui-même le dit, une grande partie du grand patronat utilise les clandestins pour faire peser à la baisse les salaires des Français. Le CVPOF, Sciences Po Paris, c'est pas l'extrême droite Sciences Po Paris, c'est pas le FN de Jean-Marie Le Pen. Le CVPOF a fait un travail en expliquant que 1% d'immigrés en plus, c'est 1% en moins sur le salaire des ouvriers les moins qualifiés. C'est pas moi qui l'invente, c'est eux-mêmes, nos adversaires qui promeuvent l'immigration. Donc l'immigration, quand on dit que l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet pour l'Union européenne, mais bien sûr que c'est vrai. Regardez en Suisse, et j'arrête ensuite de trop parler, mais...
Non, allez-y.
En Suisse, on avait eu un référendum, là, il y a peut-être moins de 10 ans, je crois que c'était 5-6 ans. Je vais clarifier ou caricaturer un peu, mais c'était pour ou contre l'immigration, c'était une histoire de quotas. Vous aviez les partis d'extrême-gauche, type Mélenchon et autres révolutionnaires en carton, qui votaient pour plus d'immigration avec les 15 organisations patronales les plus puissantes de Suisse. Ah, ces gens-là étaient dans le même camp.
C'est fabuleux.
C'est fabuleux, mais on peut voir ça aujourd'hui entre Mme von der Leyen qui défend les intérêts allemands, des entreprises allemandes, des grandes entreprises allemandes, et vous pouvez dire que SOS Méditerranée et autres Che Guevara du Cirque Pinder sont dans le même camp. Voilà.
Hormis donc l'immigration clandestine, l'immigration délinquante, l'immigration déracinée, profite bien au patronat qui a besoin d'une manœuvre peu chère, et sous-qualifié pour l'exploiter. D'une certaine façon, on peut dire aussi que l'immigration est une armée de réserve du capital.
C'est une évidence. Et même, je vais dire que la gauche a même perdu complètement ses personnages. Je sais qu'on ne cite pas trop ce genre de personnages, mais le vais-je faire sur Radio Courtoisie.
Allez-y.
Vous prenez Thomas Sankara,
ouais,
qui est le Che Guevara africain. Mais lui-même disait... S'il vous plaît, ne partez pas. Je rêve du jour où notre jeunesse restera dans notre pays de manière patriotique pour construire nos pays et ne pas aller enrichir des grands patrons en Europe. Thomas Sankara, ça devrait être une référence pour Ercilia Soudet ou je ne sais quel Boyard ou compagnie. Non, ils ne savent même pas qui c'est. Mais vous voyez, ces références-là aujourd'hui sont plus proches des positions du Rassemblement National que des libertariens débilos crétins de la France Insoumise.
Oui. Alors, je reviens à la question que je vous posais au début de l'émission.
Oui.
Est-ce que le Rassemblement National critique seulement le capitalisme mondialisé, comme je l'ai souvent entendu dans la bouche notamment de Marine Le Pen, ou est-ce qu'elle critique non seulement le capitalisme mondialisé, mais le capitalisme en soi, au sens où Marx l'entendait, c'est-à-dire système d'accumulation du capital et du profit et exploitation de l'homme par l'homme. On le voit notamment aujourd'hui dans la tyrannie du marketing, dans la tyrannie du management, dans l'aliénation, la pénibilité au travail que beaucoup, beaucoup d'employés, d'ouvriers, gens travaillent réellement et qui sont en principe aussi aux électeurs, les classes populaires et les classes moyennes déclassées.
Il y a entreprise et entreprise.
Oui, évidemment.
Je peux me permettre parce que quand Marx a écrit Le Capital, il n'y avait pas non plus de traité de libre-échange. Il n'y avait pas le Mercosur, il n'y avait pas Madame von der Leyen et compagnie. Aujourd'hui, le monde...
Il mériterait une petite
mise à jour
mondialisée.
Voilà, 2.0, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne défend pas les mêmes intérêts ni avec les PDG, ni avec la CGT. Enfin, on ne défend pas les mêmes intérêts. Je vous prends un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure de Marine Le Pen qui rencontrait les grands patrons du CAC 40. Oui, c'est vrai. Et on a l'avantage avec Marine Le Pen, alors on en pense qu'on veut, on est pour, on est contre, mais on a un avantage avec Marine Le Pen, et j'en suis témoin pour bosser avec elle, c'est qu'elle adapte jamais son discours avec son interlocuteur. Ce qu'elle dit au sein du cabinet, ce qu'elle dit à des syndicalistes ou à la foire de Beaucroissant, elle dira la même chose au patron du CAC 40. Et d'ailleurs, certains patrons du CAC 40 n'ont pas trop apprécié, vous vous souvenez de la sortie de, je crois qu'elle s'appelle Madame McGregor, la patronne de l'énergie, là, je me souviens plus de l'entreprise, bon, ça va me revenir.
Je peux pas vous aider.
Elle disait que c'était nul ce que disait Marine Le Pen de délier le prix du gaz, de l'électricité, c'était nul de revoir le marché européen de l'énergie, c'était nul de vouloir faire baisser le prix de l'énergie, à la fois pour les familles, mais aussi pour les entreprises, c'était nul. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Mais parce que cette dame est PDG, elle défend les intérêts de ses actionnaires. Nous, au Rassemblement National, on défend les intérêts des Français, de la nation. Et c'est différent. Quand on parle du capitalisme débrayé, qui dérégulé, etc., on va dire que cette limite-là s'arrête là où ce capitalisme enfreint les intérêts du peuple français. Voilà. Nous, on ne laissera personne, ni les capitalistes, ni les gauchistes, s'attaquer au peuple français, à la France et à la nation française. Voilà.
Alors pourquoi tout ce que vous dites là, ça n'est plus tellement entendu depuis 2-3 ans au sein du Rassemblement National? Je ne pense pas être le seul à constater cette réalité. Autant au moment de la présidentielle, Marine Le Pen était très active à citer Christophe Guillouy, Jean-Claude Michéa, la France périphérique, les ouvriers, les chômeurs, etc., que d'ailleurs stigmatisait avec mépris Éric Zemmour en considérant qu'elle était à la tête d'un ghetto, etc., etc. Et puis là, après, on a l'impression que y a eu une sourdine.
Non, c'est pas ça. Bah, quand je vous parle de Madame McGregor, là, ça va me revenir, son entreprise, mais vous la connaissez, hein, c'est la plus grande entreprise d'énergie en France. Bon, bref, ça va me revenir tout à l'heure. Si elle s'attaque à Marine Le Pen, c'est bien que Marine Le Pen lui a dit quelque chose qui ne lui a pas plu.
Oui, parce qu'il y a des restes.
Mais parce que,
est-ce qu'il y a des restes substantiels?
Non, parce que Marine Le Pen est toujours cohérente et que c'est pas un patron du CAC 40 qui va lui faire peur, elle est pas là pour lui faire plaisir. Donc
ça, c'est important que vous disiez
là-dessus,
ça.
Là-dessus, il y a aucun problème.
Parce qu'il y a peu d'hommes politiques et d'hommes politiques qui peuvent dire...
Il y a aucun doute, et je pense qu'il y a peu d'hommes politiques qui peuvent dire à quel point cette dame a quand même souffert et a été très largement attaquée, encore à l'heure où je parle, où beaucoup l'ont déjà enterrée. Le 7 juillet, c'est terminé. Mais qui sait que le 7 juillet, c'est terminé? On n'en sait rien du tout. Et donc, Marine Le Pen est quand même quelqu'un de courageuse, et je suis pas sûr que quand Monsieur Larcher...
Les de Français. Droite, pas forcément de droite, mais de droite, de droite,
droite.
De droiture.
Ah, de droiture, tout à fait. Voilà, voilà, vous avez conclu.
C'était ce que j'en disais son père aussi, d'ailleurs.
Hein. Exactement.
Je ne suis pas d'extrême droite, je suis d'extrême droiture.
Exactement. Et il disait aussi, Jean-Marie Le Pen, j'ai écouté un discours récemment, je crois que c'était en 2002, où il disait, je suis... socialement, je suis de gauche, oui. Économiquement, je suis de droite, et nationalement, je suis de France. Ben moi, je viens peut-être de la gauche, mais ce discours-là, il me parle beaucoup.
Oui, mais alors, je comprends ce que vous voulez dire en termes de responsabilité et d'efficacité pour la gauche économique, et les termes de protection, de défense, de patriotisme, d'identité, etc., sur le plan du social. Mais l'économie libérale est antithétique des identités nationales, des inégalités sociales, de tout ce qu'il peut y avoir justement de socialement précarisé dans le pays dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, le capitalisme débridé, dérégulé, déterritorialisé est en train de se mettre de plus en plus à gonfler les blocs.
Bah, vous me parlez d'identité, moi ça me fait penser un petit peu à l'agriculture. Parce qu'il y a beaucoup d'économique là-dedans, il y a beaucoup d'identité parce que ce sont eux qui font vivre à la fois nos produits typiquement français, je pense au fromage, je pense à l'élevage, mais aussi nos manières de faire de l'agriculture, je pense au pastoralisme. Moi, dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, le pastoralisme, c'est quelque chose qui a 1000 ans. Enfin, je veux dire, c'est eux qui préservent nos montagnes, nos sommets. Être patriote, c'est pas simplement protéger la frontière de tel ou tel immigré qui arrive
Non,
d'Italie.
c'est patriotisme enraciné.
C'est tout défendre. Il faut défendre la patrie en général, y compris ses sommets. Et quand on regarde ce qui se passe chez les entreprises agricoles, bah c'est catastrophique parce qu'on a abaissé les barrières douanières partout. On ne peut pas demander à l'agriculteur français de ne plus utiliser des produits phytosanitaires. Moi, ça me va, hein, de pas d'utiliser. Mais on ne peut pas leur demander d'avoir une agriculture la plus saine du monde, et c'est le cas, quand dans le même temps, on fait venir des marchandises d'ailleurs sans droit de douane qui utilisent ces mêmes phytosanitaires. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un triptyque là-dedans. C'est d'abord, un, protéger nos agriculteurs, les protéger de Madame von der Leyen, les protéger de ces traités de libre-échange, les protéger face à une concurrence déloyale qui nous vient du Vietnam ou du Brésil. On ne peut pas concurrencer ni les Ukrainiens, ni le Vietnam, ni le Brésil. Il faut les protéger. Deux, il faut les avantager dans la commande publique. C'est quand même mieux d'avoir des œufs français dans la cantine de vos enfants ou vos petits-enfants, pour ceux qui nous écoutent, et que des œufs ukrainiens qui nous arrivent et qui non seulement ne fait pas bénéficier à l'économie ukrainienne, mais un oligarque qui a le monopole sur les poulets ukrainiens et qui habite à Londres. Bon, voilà, donc un peu de bon sens, quoi. Et enfin, protéger, avantager, et découlera de ces deux premières conditions, rémunérer. Voilà. Il faut bien payer, il faut que ceux qui nous nourrissent, ceux qui préservent nos sommets, ceux qui préservent nos pâturages, nos élevages, nos filières, notre identité dans les produits, soient rémunérés par la nation. Et ça passe par les protéger et les avantager dans la commande publique.
Alors, durant la mission dont je parlais au début, vous avez parlé de plusieurs.
Je parle beaucoup, peut-être un peu
Non,
trop.
pas du tout, au contraire, c'est une conversation, une disputatio. Peut-être qu'il y a quelques points que vous pourriez mettre en avant sur le programme même du RN qui permettrait d'y voir un peu plus clair techniquement, si j'ose dire, pour qu'on sache exactement à quoi renvoie dans le programme du RN et chez Marine Le Pen ou Bardella. Ces mesures sociales. Est-ce que vous pourriez en énumérer quelques-unes qui permettraient de savoir exactement à quoi on doit se fier?
Il y en avait déjà dans le précédent, alors je n'ai pas envie d'anticiper le
Oui.
reste parce qu'il faut quand même attendre d'avoir un candidat, une
C'est pour ça
campagne,
que vous pouvez le
etc.
dater,
C'est peut-être un
hein.
peu tôt, mais je vous prends un exemple. Quand on dit par exemple, on parlait d'écologie à l'instant et d'agriculture, on a eu l'écologie punitive qui nous venait de là-haut ou de Sandrine Rousseau, des ZFE, etc. Tout un tas d'idées qui ont sanctionné les Français. ZFE, les zones à faible émission, s'avèrent être des zones à forte exclusion. On exclut le banlieusard, on exclut le gars du monde rural, on exclut l'artisan qui veut rentrer avec sa camionnette pour travailler dans les métropoles parce qu'on dit que leur véhicule est trop polluant. Bon, ça c'est l'écologie punitive. Et elle est dangereuse parce qu'elle fait détester l'écologie aux Français en réalité. Je vous prends une mesure qui existe dans le programme de 2022 de Marine Le Pen, c'est lié la lutte contre la précarité et l'écologie. Je prends le cas des étudiants qui
Le
aujourd'hui ont un taux de
social et
pauvreté.
l'environnemental,
Mais bien
contrairement à ce
sûr,
qu'on a voulu nous
mais
dire au
bien
moment des
sûr.
gilets jaunes, on a voulu dichotomiser les deux.
Exactement. Et je vous prends un exemple. Marine Le Pen avait dit pour les 18-24 ans, donc beaucoup d'étudiants ou de personnes qui se construisent, qui n'ont pas encore le portefeuille rempli, d'ailleurs peu de gens l'ont aujourd'hui, mais 18-24 ans, le train TGV, TER, Intercité, gratuit en heure creuse. Oui, parce que moi j'étais étudiant à Lyon, mes parents étaient à Thonon, j'étudiais à Lyon. Bah aujourd'hui, le TER, je peux vous dire, ça coûte extrêmement cher. Eh ben, j'aurais aimé, si Marine Le Pen était présidente, de pouvoir l'utiliser de manière gratuite en heure creuse. Ça coûte pas d'argent. Le train est là. Le train roule à vide. Et on peut quand même, évidemment, ça dépend du nombre de places, mais on peut quand même accepter qu'un certain nombre de Français qui en ont le plus besoin, qui se construisent, notamment des jeunes, puissent à la fois utiliser les transports, les mutualiser en prenant le train, et en même temps, pour que ce soit gratuit, et leur permettre que ces 35, 40 euros qu'ils auraient mis dans le billet de train puissent servir à aller au marché et à rémunérer des œufs français, par exemple. Voilà, en mettant une TVA à 0% sur les produits de première nécessité.
Oui.
Voilà, c'est ça le bon sens. Et on peut le faire, on a un génie français, encore faut-il adapter et mettre en harmonie tout ça.
Alors, est-ce qu'il y a des mesures propres et inhérentes à la question des retraites? Parce que je sais que ça ne va pas se focaliser là-dessus, d'autant que ça n'est pas encore complètement arbitré, que rien n'est encore fait pour la candidature de Marine Le Pen, si c'était elle ou si c'était Jordan Bardella. On sait que Marine Le Pen est passée d'une certaine façon des 60 à 62 ans et que Jordan Bardella souhaiterait peut-être aller au-delà de 62 ans. Qu'en est-il aujourd'hui à votre avis? Quelles sont les tendances de fond qui se profilent?
Non mais les tendances de fond c'est les mêmes, en fait c'est la même philosophie. Alors Marine Le Pen avait proposé une réforme en 2022, qui est toujours sur le site de l'Assemblée nationale, hein, pour ceux qui veulent aller chercher, il y a un tableau, c'est Laure Lavalette qui avait défendu ça, donc c'est au profil de Laure Lavalette, vous pouvez aller voir, qui est une retraite progressive. Si vous commencez à travailler entre 18 et 20 ans, eh bien vous avez 40 annuités et vous pouvez partir à 58 ou 60 ans.
C'est ça.
Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'il y a une mesure de justice, quand on commence à travailler à 18 ou à 20 ans, a priori, sauf si on est un petit génie, on n'est ni expert comptable, ni avocat, ni magistrat. On est plutôt carreleur, on travaille dans le BTP, et donc on a les métiers physiquement très difficiles. Et donc c'est très pragmatique de les faire partir avant, parce qu'aujourd'hui, on a, vous prenez des carreleurs qui aujourd'hui ont 49 ans, n'ont plus de genoux. Prenez des plaquistes ou des gens qui isolent nos murs, ils n'ont plus d'épaule. Ils ont des problèmes de tendons, etc. Donc, ils ne sont même plus employables. Donc, ils sont en arrêt maladie, voire au RSA, voire au chômage, jusqu'à atteindre l'âge légal. Donc, ce que propose Marine, c'est pas...
Gagner plus, travailler plus pour gagner plus, ça dépend pour qui. Hein.
Exactement, exactement. Et après, c'est progressif. Quelqu'un qui rentre à 24 ans sur le marché du travail, eh bien, fera 42 annuités pour pouvoir partir à taux plein. Je pense que c'est un peu plus de justice. Je rappelle quand même que la réforme Borne, non seulement elle a supprimé les critères de pénibilité, justement pour les métiers difficiles, mais elle avait promis deux choses. La première, c'était que les seniors restent le plus sur le marché du travail, parce qu'aujourd'hui, les entreprises nous disent il faut 67 ans, 70 ans, mais ils expulsent et licencient leurs salariés à 50 ans. Bon, bah, ils sont gentils, mais les seniors, les préserver au travail, c'est quelque chose de très important. Bon, bah, la réforme Borne avait promis ça, c'est l'inverse qui se passe. Il y a moins de seniors qui sont sur le marché du travail. Elle avait promis autre chose, c'est qu'il y ait plus de jeunes, donc qui rentrent plus tôt sur le marché du travail, ce qui est quelque chose de très bien, hein, c'est vers là qu'il faut aller. Mais là aussi, l'INSEE nous explique que c'est pire maintenant qu'avant la réforme Borne. Donc vous voyez bien que cette réforme Borne, il faut l'abroger. D'ailleurs, même Gabriel Attal, qui était le premier partisan de cette réforme, a dit avant de partir de Matignon que cette réforme était inefficace et injuste. C'est exactement ce que disait l'URN, donc... Là aussi, on avait encore raison.
Alors, sur les 40 annuités, 42 annuités, vous avez précisé les choses. Il y a quand même eu, d'après les médias, mais est-ce que Marine Le Pen n'a pas été victime de ceci, comme d'habitude, un cafouillage dans la manière, la méthode d'exposer cela. Et aujourd'hui, est-ce que Jordan Bardella, précisément, ne veut pas revenir sur cet état de fait et peut-être élever la retraite 64, 65, je ne sais pas.
Mais en fait, je pense que cette thématique, pour aller, on a, évidemment qu'on va en discuter, il n'y a pas de candidat pour l'instant, c'est toujours la même chose, donc je ne vais pas vous raconter des histoires, il faut aussi arbitrer. La réforme et la philosophie est la même, à la fois pour Jordan et pour Marine, vous l'avez entendu, Jordan sur LCI, et Marine Le Pen, je crois que c'était sur RTL, ils ont repris la même philosophie, caractère juste, progressif, et éviter ces réformes comme la réforme Borne qui était inefficace, et injuste. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on est aussi à chaud sur les retraites? Parce qu'en réalité, ce n'est pas un tableur Excel. Beaucoup voient ça comme un déficit, etc. Non, ce n'est pas un tableur Excel. C'est quelle société on veut. Parce qu'on dit on n'a pas assez d'actifs. C'est vrai. Mais on a une natalité qui est catastrophique dans le pays. Ça touche à la natalité, à la politique familiale. Et là-dessus, Marine Le Pen avait d'innombrables idées en 2022. Et j'espère qu'elle en aura deux fois plus encore pour 2027, parce que François Hollande et les autres ont détruit la politique familiale. Faire en sorte que des Français, des jeunes qui veulent avoir des enfants, puissent les avoir. On a un décalage, hein, c'était d'ailleurs une commission d'enquête parlementaire de Joëlle Mélin, une députée RN, qui avait montré que, eh bien, entre le souhait des femmes françaises en nombre d'enfants et la réalité, eh bien, il y avait un gap. On ne faisait pas autant d'enfants qu'on souhaiterait dans le pays. C'est un problème. Deux, ça rejoint la productivité et la production de richesse.
Si on réintroduisait ce que je proposais Jean-Marie Le Pen en son temps, mais ça a été complètement abandonné, mais il n'est pas le seul à l'avoir proposé à l'époque, y compris dans certaines contrées du monde, c'est-à-dire le salaire maternel à la mère pour trois enfants, eh bien peut-être que ce problème de natalité et ce problème de restitution d'un couple qui a un enfant et des tâches qui leur sont données pourraient permettre une meilleure cohabitation, une meilleure conjugaison dans les foyers.
On a une philosophie assez similaire. Vous savez qu'à l'époque où Jean-Marie Le Pen dit ça, le coût du logement proportionnellement au salaire n'était pas le même. Aujourd'hui, je crois que c'est 40% du salaire qui va vers le logement, soit le loyer, soit le crédit immobilier. C'était 15 pendant les 30 Glorieuses. Mais Marine Le Pen a proposé là aussi de lier les choses. En 2022, elle propose un prêt immobilier aux moins de 30 ans pour qu'ils puissent acheter un appartement, s'installer, avoir une politique familiale stable. Et qu'au bout du troisième enfant, eh bien, ce qu'il reste à payer dans ce crédit soit une donation. Voilà. Si les personnes font trois enfants, eh bien, le reste à payer, c'est l'État qui l'offre. Donc, ça, on pousse finalement à lier l'immobilier, le logement et à avoir une famille et plusieurs enfants. Vous voyez, avoir une situation stable et non pas précaire. Donc, on essaye d'avoir d'innombrables idées de la sorte, mais la politique de natalité est très importante dans la réforme des retraites. La production de richesses. C'est-à-dire contre l'ubérisation. Aujourd'hui, on produit moins de richesses réelles dans le pays. Et trois, c'est le nombre de personnes sur le marché du travail. Il faut que les Français puissent commencer beaucoup plus jeunes à travailler, notamment dans les métiers manuels, notamment dans des métiers qui rapportent beaucoup d'argent. Hein. Dans le bâtiment, on a la chance d'avoir des bacs pro dans le pays. On a la chance d'avoir des CAP, on a la chance d'avoir des BEP. Tout ça doit être mis en avant. Les Allemands l'ont fait, les Suisses l'ont fait. Vous allez en Suisse, à Genève, vous avez l'université Sciences Po, vous avez la fac de droit et au milieu, vous avez les métiers manuels parce qu'ils ont revalorisé ces types de métiers qui nous manquent tant dans le pays. Et je pense qu'il faut penser ça par anticipation plutôt que de dire « Oh, les Français ne veulent pas le faire, eh bien on va appeler des immigrés ».
Ça, c'était le fameux chantage qu'on faisait dans les années 70-80.
Mais il continue.
Et
hein.
La formule revenait comme un mantra. Ça n'est pas encore fini, cette
mais
mentalité-là.
Mais il continue. Hein. Vous écoutez M. Retailleau, souvent des LR d'ailleurs, qui disent ouais. « Mais comment on va faire pour les métiers en tension ?» Ça fait 40 ans, mon coco, que tu nous dis ça. 40 ans. Et vous voyez aujourd'hui, l'INSEE, là aussi, que le chômage chez les populations immigrées est double
Marquez
par
monsieur,
rapport aux Français.
M. Retailleau, qui dit qu'il n'aime pas le gros rouge qui tâche quand il parle de Marine Le Pen... est bien inspiré de dire ça, parce que ça le rend vraiment de plus en plus con. Hein. Alors là, vraiment, je crois qu'il n'y a pas de mot pour le traiter de la sorte.
Les gens ne verront pas, mais j'acquiesce de la tête, et puis comme ça, ce sont vos propos, cher monsieur. Voilà.
Alors, on va arriver à la fin de cette émission. Marine Le Pen va donc connaître en juillet ce qui va lui être réservé. Va-t-elle pouvoir concourir à l'élection présidentielle ou non? Est-ce que Jordan Bardella, au cas où elle ne serait pas, où elle ne pourrait pas se mettre en piste, est-ce que Jordan Bardella lui succéderait? Apparemment oui, puisqu'elle l'a dit. Est-ce qu'elle est, à votre avis, aujourd'hui, un peu résignée par rapport à l'ambiance, au climat, où on aurait l'impression que finalement, comme elle a déjà délégué Jordan Bardella, si elle n'était pas présente, ben, elle pourrait très bien accepter finalement assez philosophiquement de se retirer de la vie politique. Elle l'a dit d'ailleurs elle-même qu'elle n'était pas faite pour vivre, pour faire de la politique jusqu'à la fin de sa vie. Ou est-ce qu'au contraire, vous croyez qu'elle y croit encore, mais qu'elle veut sagement étudier comment les choses vont se passer sans se presser et en réfléchissant bien aux conséquences que ça peut avoir dans son attitude.
Nous, on a de la chance au RN quand même d'avoir un petit débat de luxe. Hein. Si on n'a pas Marine Le Pen, on aura Jordan Bardella. Bon, les deux caracolent en tête de tous les sondages, personnalité préférée des Français, etc. Donc, on a quand même de la chance d'avoir ces deux personnalités qui sont très populaires, très appréciées, qui ont de bons sondages, on va dire. Maintenant, sur la jurisprudence Marine Le Pen. Si demain Marine Le Pen ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle du fait d'une décision judiciaire alors qu'elle est favorite à l'élection présidentielle, ça peut faire précédent.
Hein. Ouais.
On peut avoir un précédent parce que le plan B c'est Bardella et on est très content de l'avoir évidemment au RN et même les Français en vue des sondages, mais lui aussi est poursuivi pour encore une histoire inventée au Parlement européen pour faire croire que c'est un escroc ou je ne sais quoi. Bon, ils y seront tout. Mélenchon, une semaine avant le procès en première instance de Marine Le Pen, dit sur France 3 dimanche en politique, si Marine Le Pen ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, c'est pas bien, dit. Et il dit à ses petits camarades, parce que demain, ce sera peut-être nous. Donc vous voyez qu'il y a un précédent qui dépasse clairement Marine, Jordan, qui dépasse même le
et
RN.
Et qui créerait une atmosphère dans l'imaginaire collectif de type un peu insurrectionnel, parce qu'une candidate politique qui se présente au présidentiel, qui probablement ferait le premier score de tous les candidats qui seraient interdites, ça crée évidemment une situation d'injustice et de mépris et d'injustice profonde qui naturellement ne peut pas avoir de conséquences sur le pays et sur les habitants du pays, sur les Français.
Bien sûr, alors Je ne veux pas y m'immiscer dans les affaires judiciaires pour une séparation stricte des pouvoirs. Le politique ne doit pas s'immiscer dans le judiciaire. Mais je vais vous dire une chose, l'inverse est vrai aussi. Le judiciaire ne doit pas s'ingérer dans le politique, et on pense à l'affaire Fillon. Était-ce opportun à l'époque de le mettre en examen? Était-ce opportun de mettre Rima Hassan, par exemple, qui est une adversaire, pour moi, évidemment, mais de la placer en garde à vue pour un tweet? Est-ce que demain, ce sera peut-être pas nous qui serons placés en garde à vue pour un tweet contre l'immigration? Bref, il faut une séparation stricte des pouvoirs.
D'accord ou pas d'accord avec Marine Le Pen, en tout cas, on espère qu'elle va pouvoir se présenter en juillet. Ça serait quand même la seule petite erreur que pourrait commettre le système, parce que ça pourrait faire monter les enchères après, et il y aurait à ce moment-là une revendication peut-être convulsive qui pourrait monter dans le pays. Dites à Marine Le Pen que Radio Courtoisie est derrière
je vais
elle
lui dire.
Et que nous espérons qu'elle puisse avoir droit de pouvoir se présenter aux élections présidentielles comme la justice normalement le lui donne.
Merci beaucoup.
D'Andrea Cotarac, et je signale que dans la deuxième partie, je reçois Thierry Bouclier pour son livre sur Michel de Saint-Pierre, écrivain catholique, français, aristocrate et ouvrier dans sa jeunesse. À tout de suite.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, chers auditeurs, on se retrouve donc dans la deuxième partie de cette émission après avoir discuté avec Andrea Cotarac du Rassemblement National. Et nous allons parler dans un deuxième temps de l'écrivain français catholique aristocrate et ouvrier dans sa jeunesse, Michel de Saint-Pierre, à l'occasion de la publication d'une biographie de Thierry Bouclier qu'il a publiée aux éditions Via Romana, Michel de Saint-Pierre, une biographie. Est-ce que vous nous entendez, Thierry Bouclier?
Oui, Arnaud, bonjour.
Alors, moi je ne vous entends pas. Alors attendez, on va essayer de pousser un peu le son. Je mets mon casque sur les oreilles. Et là, en principe, je devrais vous entendre.
Oui, Arnaud.
Ah là, voilà, très bien. Là, je vous entends très bien. Très bien. Alors, avec Andrea Cotarac, on a parlé en première partie du Rassemblement National et de la question sociale. Je viens de citer le thème de cette émission, qui est quand même assez contrasté avec le premier, mais pas tant que ça finalement. Michel de Saint-Pierre, écrivain catholique français, aristocrate et ouvrier dans sa jeunesse. Pourquoi? Parce que les mots d'écrivain français catholique, ça nous fait penser à son livre évidemment, Les Nouveaux Prêtres, et à bien d'autres livres que vous citez dans votre livre. Aristocrate, ça nous fait penser à son fameux et grand livre Les Aristocrates, qui a été adapté au cinéma par Denis de la Patellière avec un Pierre Freinet transcendant. Et puis, quelque chose de moins connu, peut-être pour ceux qui connaissent Michel de Saint-Pierre, c'est qu'il a été ouvrier manœuvre sur les chantiers navals de Saint-Nazaire quand il avait quel âge? Quel âge avait-il à cette époque? À peu
19
près
ans. 19 ans.
À 19 ans, oui, 19 ans. Et il est resté combien de temps à peu près?
Il est resté un an au chantier naval.
D'accord. Et il a publié, je crois, un ouvrage, La mer à boire, qui est une sorte de résumé un petit peu de ce qu'il a vu sur ses chantiers.
Alors, pas tout à fait. Parce qu'il a d'abord été, effectivement, il a quitté l'enseignement supérieur à l'âge de 19 ans, en 1935. Il est parti au chantier naval de Saint-Nazaire, où il a été ouvrier de base, hein, sans aucune spécialisation. Et de cette expérience d'ouvrier, il a sorti son premier roman qui s'appelle « Ce monde ancien », paru en 1948. Et ensuite, il s'est engagé, après avoir quitté les chantiers navals de Saint-Nazaire, il s'est engagé dans la marine comme simple matelot, où il est resté pendant 4 ans. Et c'est de son expérience au sein de la marine comme simple matelot qu'il a écrit effectivement « La mer à boire » en 1951.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un certain intérêt dans l'itinéraire de Michel de Saint-Pierre, dans sa pensée, dans ses écrits, sur la question de la justice sociale, renvoyant finalement dos à dos le capitalisme libéral et le socialisme collectiviste, et en tenant pour un catholicisme social dans la droite ligne de la doctrine sociale de l'Église, pour faire court?
Alors voilà, oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que donc Michel de Saint-Pierre donc vient d'une famille aristocratique qui était liée familialement avec Henri de Monterland, qui était ami avec Jean de La Varande. Il fait ses études, au collège et lycée à Versailles. Ensuite, il rentre à la faculté de Paris de Lettres. Donc, on va dire que jusqu'à ses 19 ans, il a un parcours, je dirais, en conformité avec le milieu social dans lequel il est né. Et lorsqu'il est à la faculté de lettres, il se rend compte que finalement, ce n'est pas ce qu'il souhaite et il annonce à ses parents qu'il arrête ses études et il décide effectivement de partir comme simple manœuvre au chantier naval de Saint-Nazaire. Donc là, on a un peu une ressemblance avec le parcours de la philosophe Simone Veil, qui elle-même, intellectuelle, a également été ouvrière pour connaître la condition des ouvriers à cette époque. Ce qui est intéressant, c'est que Michel de Saint-Pierre est donc ouvrier et, en 1936, lors des élections du Front populaire et toutes les grèves qui ont entouré cette période et cette élection. Et Michel de Saint-Pierre porte un regard, je dirais, assez complaisant, assez sympathique sur les grèves qui ont eu lieu en 1936, au moins pour les premiers jours ou les premières semaines de grève. Et il a un regard qui rappelle celui qu'avait porté Simone Veil, mais également qu'avait porté Brasillach.
Exactement.
Dans son livre « Notre avant-guerre »,
ouais, ouais, ouais.
Où Simone Veil parlait des grèves de la joie, voilà, où effectivement… Ouais. Sans adhérer évidemment à la politique du Front populaire, eh bien, ces grèves manifestaient effectivement tous les excès qu'avait entouré la révolution industrielle au XIXe siècle, tous les excès dont avait été victime la classe ouvrière. Et finalement, eh bien, en 1936, nous avons eh bien, une classe ouvrière qui intègre les usines, qui sont en grève. Et Simone Veil, qui également était ouvrière à l'époque, bien notait qu'il y avait une joie, il y avait des sourires, il y avait comme une dignité retrouvée chez les ouvriers, dignité dont ils avaient été privés finalement depuis cette révolution industrielle qui n'avait pensé que par le profit et qui avait totalement ignoré la condition de l'homme.
Alors je ne sais pas si c'était le cas de Michel de Saint-Pierre, mais pour ce qui concerne Brasillach, il était même favorable au congé payé qui avait été institué par le Front populaire.
Exactement.
Ça peut étonner aujourd'hui.
Il était très critique par rapport au Front populaire, mais il avait aimé, il a très bien écrit ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui partaient en vélo ou en train à la montagne et qui découvraient la montagne ou la mer. Eh bien, Michel de Saint-Pierre porte ce même regard qu'on retrouve effectivement dans son livre Ce monde ancien, donc qui est paru en 48 et qui est inspiré de sa vie d'ouvrier.
Alors, les valeurs aristocratiques et populaires sont souvent les mêmes. On a tendance aujourd'hui à les opposer parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'est l'aristocratie et puis elle a un peu dégénéré. Et le peuple, on ne sait pas non plus très bien ce que ça veut dire parce que malheureusement, on l'a délaissé. Alain de Benoist a l'habitude de dire que les valeurs aristocratiques et les valeurs populaires se rejoignent et Michel de Saint-Pierre en est en quelque sorte l'archétype parce qu'il c'est un aristocrate, mais il a connu, peut-être pas dans sa chair complètement, le peuple, mais il a quand même pendant un an travaillé comme ouvrier et il s'est senti toujours assez proche du peuple, y compris dans ses engagements futurs.
Alors effectivement, tout à l'heure vous parliez, effectivement, il faut le dire. Donc on voit bien que Michel de Saint-Pierre est effectivement un homme de droite, hein, ça ce n'est pas contestable, mais on peut dire qu'il ne se rattache pas, je dirais, à la droite orléaniste qui a fait précisément fortune au XIXe siècle lors de la révolution industrielle. Lui se rattache effectivement à ce courant qu'on appelait les catholiques sociaux, Albert Demain, René Latour-Dupin, le comte de Chambord qui avait publié en 1865 sa lettre publique sur les ouvriers, le pape Léon XIII et sa célèbre encyclique Rerum Novarum parue en 1891. Et donc effectivement, on retrouve dans la pensée de Michel de Saint-Pierre une hostilité au socialisme, mais également au libéralisme, le fait que la propriété doit servir la communauté, la condamnation de la spéculation, le droit au juste salaire, la condamnation de l'exploitation de la misère telle qu'elle avait eu lieu au XIXe siècle, et ce thème que l'on retrouve donc dans le premier livre, Ce monde ancien, qui met en parallèle deux personnes, Gilles de Lointrain, qui est, je dirais, un aristocrate qui découvre le monde ouvrier, et René Lester, qui lui est ouvrier et qui s'oppose à la mainmise des syndicats communistes sur la classe ouvrière. Donc il y a cette dualité entre Gilles de Lointrain et René Lester, qui est finalement la dualité que l'on rencontre chez Michel de Saint-Pierre. Et c'est un thème qui va rester cher au cœur du Michel de Saint-Pierre, puisque dans les années 60, Michel de Saint-Pierre va avoir un engagement plus politique et religieux. Il ne va pas publier de romans pendant un certain nombre d'années, et il va revenir au roman en 1970 avec un très beau roman qui s'appelle « Le milliardaire », dans lequel il dénonce précisément, où il s'interroge, il se pose des questions, oui, il dénonce effectivement le monde de l'argent, et effectivement, sans évidemment critiquer, je dirais, les chefs d'entreprise qu'il soutient et qui, par leur travail, bien sûr, peuvent s'enrichir.
Mais petites et moyennes entreprises, disons.
La spéculation que l'on peut rencontrer.
Petites et moyennes entreprises, disons. Exactement. Parce que je pense que dans les grandes entreprises multinationales, etc., Michel de Saint-Pierre était assez étranger, voire hostile. Il y a aussi dans Le Milliardaire un aspect qui est intéressant, parce qu'on a interviewé à l'époque, à la télévision, Michel de Saint-Pierre sur son livre Le Milliardaire. Il disait « Moi, j'ai deux amis milliardaires, je peux vous dire, qu'ils épousent parfaitement les valeurs aristocratiques traditionnelles. » Donc il y a quelques capitalistes qui sont eux-mêmes des capitalistes patriotes et sociaux, et qui ne sont pas nécessairement des capitalistes parvenus et des capitalistes nouveaux riches. Non, et la preuve, c'est que Michel de Saint-Pierre s'est engagé souvent auprès de journalistes, d'écrivains. Je pense à des gens comme Jean Madiran, il a aussi travaillé sur le livre de François Brignot, Jules Ferry l'imposteur, etc., etc. Il a dû rencontrer, même quand il collaborait à National Hebdo ou au National, il a dû quand même collaborer beaucoup de gens d'extraction populaire. Et il n'a pas rencontré que des aristocrates. Donc il a toujours été finalement à la confluence du milieu aristocratique et du milieu populaire, sans que ce soit lui-même un hobereau comme Jean de Lavarande. Il était très ami avec Jean de Lavarande, mais ça n'était pas un hobereau comme Lavarande.
Alors oui, effectivement, surtout que voilà, Michel de Saint-Pierre a aussi cette dualité. Effectivement, il était, je dirais, très attaché à l'ancienne France, très attaché aux valeurs traditionnelles, mais il n'était pas passéiste. Il n'était pas nostalgique au mauvais sens du terme. Il avait, je dirais, un pied, on va dire, peut-être dans le présent, voire éventuellement le passé, mais également dans l'avenir. Donc, effectivement, il se retournait parfois pour regarder le passé, mais très rapidement, son regard se tournait à nouveau vers l'avenir. Et effectivement, on retrouve bien cette dualité, je dirais, aristocratie populaire, et puis cette dualité, je dirais, avenir et passé.
La bourgeoisie étant un petit peu l'ennemi à pourfendre dans son optique accapareuse, dans son optique maximaliste en ce qui concerne la rentabilité et le profit, et en ce qui concerne l'accumulation des richesses pour l'accumulation et l'exploitation.
Oui, effectivement, alors même si le terme de bourgeoisie a été quelque peu galvaudé...
Bah, c'est-à-dire qu'il a été récupéré par les marxistes, disons-le franchement.
Voilà. Mais c'est vrai que si jamais on renvoie ce terme à 1830, Louis-Philippe et tout ce qui s'est passé au XIXe siècle, et c'est vrai que on peut dire que le marxisme, le Front populaire, finalement, n'est que le résultat, je dirais, de ce qui a pu se passer au XIXe siècle lors de la révolution industrielle, et probablement que si tous ces excès par rapport aux plus pauvres et aux plus faibles n'avaient pas eu lieu, il est probable qu'effectivement l'imprégnation marxiste n'aurait pas été celle qu'elle a été. Donc effectivement, si jamais on renvoie le terme de bourgeoisie à cette période, on l'a fait, enfin pas net, mais elle s'exprime véritablement lors de la révolution industrielle et tous les excès, notamment à l'époque de Louis-Philippe, effectivement, cet esprit n'était pas du tout celui de Michel de Saint-Pierre.
D'ailleurs, la droite à laquelle adhère Michel de Saint-Pierre, c'est la droite effectivement contre-révolutionnaire, légitimiste, qui est une droite sociale au 19e notamment, avec Villeneuve-Bargemont et certains économistes ou théoriciens de cette même contre-révolution. Et à ce moment-là, la droite aristocratique et populaire s'est représentée par la chouannerie ou les chefs vendéens, et la bourgeoisie est l'ennemi à la fois de l'aristocratie traditionnelle néo-féodale, si j'ose dire, et du peuple à des aspirations sociales et de droit à, précisément à pouvoir exister comme il doit le pouvoir le faire. Et oui, ça, l'élite bourgeoise a récupéré, instrumentalisé cette valeur-là.
Oui, vous avez tout à fait résumé la situation, et je dois dire qu'on retrouve un petit peu cette philosophie de Michel de Saint-Pierre dans sa biographie de Charette,
ouais.
Où effectivement, Michel de Saint-Pierre explique très bien que ce sont finalement les paysans, le petit peuple, qui, excédés par les excès de la Révolution française, excédés par toutes les exactions et les vexations qu'ils subissaient, sont allés trouver les aristocrates pour leur demander de les mettre à la tête du combat. Et il explique effectivement très bien que c'est comme ça que Charette, Charette est un personnage tout à fait fascinant, parce qu'il était à la fois, il avait ce côté bien sûr aristocratique, mais un côté assez frustre aussi que l'on peut associer peut-être à un milieu plus populaire. Et effectivement, il y a eu cette alliance entre le petit peuple paysan et l'aristocratie pour lutter contre les révolutionnaires. Mais il est très important de le souligner, les initiateurs, je dirais, de la révolte, ce ne sont pas d'abord les aristocrates, c'est vraiment le peuple qui est venu les chercher.
Ça met, si j'ose dire, ça met en contradiction avec la vulgate dominante où on oppose toujours l'aristocratie traditionnelle au peuple, ce qui sert toujours les intérêts de la bourgeoisie contre précisément ce même peuple. Alors,
exactement.
Vous avez le livre de Michel de Saint-Pierre, on y revient. Le livre de Michel de Saint-Pierre, le plus célèbre, le plus connu, adapté au cinéma, ce sont Les Aristocrates, suivi des Nouveaux Aristocrates. Sachant qu'entre les deux livres, il n'y a pas vraiment de lien, si ce n'est que c'est quand même l'aristocratie qui est toujours au centre des livres de Michel de Saint-Pierre. Et on a eu, quand le livre est paru, je crois qu'il y a eu combien, 6 millions, 7 millions de livres vendus ?
Non, 600 000.
600 000. Mais en revanche, le film, lui, a très bien marché.
Il a fait 3 millions d'entrées.
Ah oui, c'est incroyable. Et on peut encore, alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne peut plus se procurer Les Aristocrates.
Alors, effectivement, malheureusement, les livres de Michel de Saint-Pierre ne sont plus réédités depuis sa mort en 1987. Et si effectivement on veut se les procurer, il faut aller ou les trouver sur Internet ou chez les bouquinistes.
Ouais,
voilà.
Donc, ce sont effectivement des éditions. On peut les trouver sur Amazon ou autre.
Réédition.
Oui, oui, oui. Donc, est-ce que Les Aristocrates, qui peignent dans le livre et dans le film un Maubrun, Pierre Fredet dans le film très exactement, qui en fait est un petit peu largué par le monde dans lequel il vit, qui possède des fils, filles qui sont un peu des aristocrates un peu parvenus, un peu nouveaux riches, qui ne comprennent plus tellement leur père, qui vivent dans le monde moderne, et le père qui finalement, à la fin, se révèle être, il le dit lui-même, à côté de la plaque, d'une certaine façon, et préfère se retirer dans un monastère plutôt que de voir ses fils défigurer l'esprit aristocratique et les valeurs aristocratiques qui ont été les siennes et qui ont été celles de ses ancêtres.
Oui, alors voilà, effectivement, on retrouve cette dualité hein, dont je parlais tout à l'heure, donc dans ce livre Les Aristocrates, où effectivement il y a le père, le marquis de Maubrun, effectivement qui est admirablement bien joué par Pierre Fresnay dans le film que vous pouvez trouver sur Internet, hein, il peut être regardé, il est un petit peu différent quant à la fin du livre, mais dans l'ensemble, il est assez fidèle au livre.
Je crois que et vous dites que dans le livre, le livre est moins pessimiste que le film.
Oui, parce que le film, pour ceux qui veulent voir le film,
oui, ils vont pas de, tout à fait leur résumer l'histoire déjà.
Voilà, mais il se termine de toute façon très tragique. Voilà, dans le film, la fin du livre est moins tragique sur le plan humain que dans le film. Et donc, nous avons ce marquis de Maubrun, très attaché aux valeurs aristocratiques, et qui se heurte à un problème, c'est qu'il a ce très beau château, mais qui tombe en ruine, qui nécessite des travaux. Donc, on fait appel à l'argent, et lui, bien évidemment, quand Hansévis lui dit qu'il va falloir monter une SARL pour pouvoir entretenir le château, le simple fait d'entendre le terme société à responsabilité limitée, il dit mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça que l'on agit. Et donc, il y a bien effectivement entre le marquis de Maubrun et ses fils, eh bien toujours cette dualité entre l'attachement au passé et la nécessaire adaptation au monde moderne. Et donc, là encore, c'est une dualité que l'on rencontrait, je dirais, dans le milieu aristocratique et qu'on retrouve tout à fait chez Michel de Saint-Pierre, avec cet homme, encore une fois, très attaché aux valeurs traditionnelles et à l'ancienne France, mais qui était un homme pleinement de son temps, donc un homme du XXe siècle.
Il était, dans une certaine mesure, dans le monde sans être du monde. C'est un petit peu ce qu'on peut dire d'un point de vue chrétien. Et augustinien.
Exactement.
Alors évidemment, les valeurs aristocratiques, nous en parlons beaucoup depuis le début. Qu'est-ce que les valeurs aristocratiques? C'est le sens de l'honneur, la fidélité à la parole donnée, la bravoure, le sens de l'abnégation, tout ce qui peut faire que la fidélité, évidemment, à la parole donnée, ça je l'ai dit, et les valeurs populaires, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure aussi, d'une certaine façon, sont rattachées aussi à ces mêmes corpus doctrinal ou d'idées. Et évidemment, Pierre Freinet, dans ce film Les Aristocrates, lui-même met en avant ces valeurs aristocratiques, mais met aussi en valeur les valeurs populaires dans le mesure où il a un rapport assez féodal, mais au bon sens du terme, entre les petites gens qui travaillent pour lui d'un côté et lui qui se comporte d'une manière qui est absolument pas d'ailleurs paternaliste, qui est une manière protectrice.
Exactement, oui. On voit bien qu'il maintient une distance, je dirais que c'était la distance nécessaire avec, on peut dire, ces gens, comme on pouvait dire à l'époque, mais il n'y a absolument aucun mépris, aucune suffisance, aucun sens de supériorité au mauvais sens du terme. Effectivement, il y a une relation paternaliste, mais je dirais avoir une relation paternaliste avec quelqu'un, c'est une relation qui est à la fois une relation protectrice, mais qui est une relation d'amitié, d'estime, voire d'amour.
En fait, ça renvoie à la trifonctionnalité traditionnelle indo-européenne de la première fonction spirituelle, de la deuxième fonction guerrière, de la troisième fonction productive. La fonction productive s'identifiant à la bourgeoisie, la deuxième fonction s'incarnant dans la guerre et la première dans la spiritualité. Et l'aristocratisme ou l'aristocratie est évidemment en pleine confirmation de ces trois valeurs ordonnées dans le monde traditionnel qui n'est plus dans le monde moderne. Qui est inversé.
Vous avez très bien résumé la situation.
Alors, on a parlé de l'écrivain catholique, mais je crois qu'il faut quand même s'y pencher encore un peu plus, parce que Les Nouveaux Prêtres et 7 ou 8 livres d'autres de Michel de Saint-Pierre ont beaucoup marqué leur temps. À part Les Nouveaux Prêtres, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal d'auditeurs qui ont lu le livre, c'est un livre quand même qui est relativement connu de Michel de Saint-Pierre, même si malheureusement aujourd'hui ça n'est pas suffisamment connu, mais ils peuvent se procurer effectivement les livres sur Internet. Est-ce que l'attachement au catholicisme de Michel de Saint-Pierre était inscrit dès le départ, si j'ose dire, dans sa famille, dans les gens qu'il fréquentait, dans ses amis, dans ses études? Ou est-ce que rien ne le prédestinait particulièrement à pouvoir être un chrétien un peu enflammé et en colère?
Oui, on peut dire que ça provient de sa famille. La devise de sa famille était quand même « s'il plaît à Dieu ».
Oui.
Quand on a une devise familiale comme ceci, et qu'on souhaite être fidèle à son héritage, eh bien, je veux dire que Michel de Saint-Pierre était peut-être fait, peut-être né, effectivement, pour avoir eu l'engagement religieux qui a été le sien à partir des années 1960, qui était un engagement extrêmement courageux, où il y avait davantage de coups à prendre que d'honneurs à recevoir. Et cette imprégnation catholique, même si jamais ce ne sont pas les thèmes du livre, on les retrouve dans ces deux premiers romans, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, Ce monde ancien et Dans la mer à boire. On voit bien qu'effectivement, il y a une instruction, un fond catholique. Voilà. Et Michel de Saint-Pierre a été dans des établissements catholiques au collège et au lycée. Et donc, il dit à plusieurs reprises, dans des interviews ou dans un de ses livres, il dit bien que tout l'héritage, voilà, tout ce que ses prêtres lui ont apporté dans son éducation, cela l'a beaucoup marqué et il en est très reconnaissant.
Alors, il est très hostile au Concile Vatican II. Il va dénoncer la tendance marxo-progressiste qui s'intronise dans l'Église et qui est de plus en plus forte. Il va aussi parler des ecclésiastiques, des curés, des évêques qui font le jeu aussi de ce marxo-progressisme, en tout cas par une certaine vacuité, ne permettent pas de restituer le catholicisme traditionnel dans sa plénitude. Et ça, alors, ça va être un homme de combat, mais de combat ardent, de combat vraiment incendiaire, si j'ose dire, à la Bernanos, à la Lyon-Blois, qu'il a beaucoup apprécié, qu'il a beaucoup lu. Et il va s'engager à fond, comme il s'est engagé d'ailleurs à peu près dans tout, y compris d'ailleurs après dans d'autres domaines, je l'ai dit politique, mais on pourra en parler, il y aurait beaucoup de... Saint-Pierre s'est engagé dans de très nombreuses causes qui étaient celles de ses livres.
Alors oui, alors effectivement, par rapport au problème de la messe et de l'Église en général, il publie effectivement en 1964 son roman « Les nouveaux prêtres », qui va véritablement faire l'effet d'une bombe à l'époque, livre, roman dans lequel il dénonce l'infiltration marxiste au sein de l'Église de France. Et on est vraiment, on est pendant le Concile, hein, le Concile s'est ouvert en 1962, il va se terminer en 1965, et alors même qu'il n'est pas encore terminé, il y a, on va dire, un vent de folie qui souffle sur l'Église de France. Et Michel de Saint-Pierre, pour écrire ce livre, va faire comme il l'a fait quasiment pour tous ses romans, c'est-à-dire qu'il va d'abord faire une enquête de terrain. Il ne va pas écrire, même si c'est un roman, il va s'inspirer de la réalité. Donc, pendant plusieurs mois, il va aller s'immerger dans ce qu'on appelait à l'époque la banlieue rouge, où il va aller voir comment ça se passe dans les paroisses, il va lire les bulletins paroissiaux, il va écouter les sermons, il va se rendre à des réunions de prêtres qui sont plus des réunions syndicales que des réunions religieuses. Et il va donc publier ce livre « Les nouveaux prêtres », où il met en perspective deux types de prêtres. Un prêtre qui conserve les méthodes traditionnelles, qui est l'abbé Paul de Lens, et puis deux autres prêtres d'une paroisse qui, eux, sont totalement acquis à la pastorale moderne et qui en oublient la mission essentielle du prêtre, qui est de donner Dieu à tous et probablement aux plus pauvres avant tout. Prêtres, voilà, qui finalement sont davantage maintenant des animateurs, voire des syndicalistes que de véritables prêtres.
Alors, il est catholique traditionnel, lui, oui.
Oui, voilà. Allez-y. Alors, il va vraiment faire l'effet d'une bombe. C'est-à-dire qu'il va immédiatement y avoir des contre-feux qui vont être allumés par l'ensemble de la presse, on va dire, catholique progressiste, de la Croix à Témoignage Chrétien.
Ce qui n'empêche pas d'ailleurs lui-même de collaborer à Témoignage Chrétien. Ça peut paraître très étonnant pour un catholique traditionnaliste, mais il y tient la rubrique cinéma.
Exactement. Alors là, on va revenir un petit peu en arrière. C'est effectivement Michel de Saint-Pierre, pendant la guerre, va rejoindre la résistance à partir de 1941. Et donc, Témoignage Chrétien étant né dans la résistance et pendant la guerre, au lendemain de la guerre, donc de 1946 à 1954, pendant 8 ans, il va effectivement être journaliste à Témoignage Chrétien et il va tenir la rubrique cinématographique dans ce journal. Et là aussi, c'est un autre aspect de Michel de Saint-Pierre qui mérite d'être souligné, c'est que une de ses qualités, vraiment, Michel de Saint-Pierre, c'était un homme qui était dénué de tout sectarisme.
Voilà. On va le voir encore, vous avez, bien sûr.
Voilà, il est,
par exemple, vous dites qu'il est résistant, et il l'est bien, et il adhère aussi à l'association de défense pour le maréchal Pétain. Il est résistant, mais il fait part de sa honte que Lord Brasillach est fusillé, et il parle de l'émotion que lui procurent les poèmes de Fresnes. Et on pourrait continuer comme ça assez longtemps.
Oui, ce qui prouve vraiment que, si vous voulez, notre époque extrêmement manichéenne, avec, je dirais, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, l'homme, la vie, l'histoire sont beaucoup plus complexes que ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Et bien évidemment, la lecture binaire des années 40 ne correspond absolument pas à ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc, pour en revenir à un témoignage chrétien, effectivement, il faut lire, et je sais que vous êtes tout à fait féru de cinéma et particulièrement cultivé dans ce domaine. Effectivement, ces critiques cinématographiques sont très intéressantes parce qu'il aborde tous les films qui peuvent sortir à l'époque, de Barbe Bleue à Pierre Brasseur, à Citizen Kane avec Orson Welles, L'Équipée Sauvage avec Marlon Brando, des dessins animés Bambi ou Pinocchio, un film de Tant qu'il y aura des hommes. Voilà. Donc, chaque semaine, il tenait cette rubrique. Et alors, bien sûr, là, je vous cite des films qui sont restés, je dirais, dans les annales et que tout le monde peut connaître, avoir vu ou au moins en avoir entendu parler. Mais il y a des tas de films voilà, qui sont probablement oubliés aujourd'hui. Mais voilà, à chaque fois, Michel de Saint-Pierre faisait cette critique, cette recension avec beaucoup de finesse et de culture. Et ce qui est très intéressant, effectivement, c'est ce que je disais, c'est son éclectisme, c'est-à-dire que, quel que soit le film, il allait les voir et il en faisait une recension.
Oui, c'est un homme engagé, c'est un aristocrate. Mais c'est aussi un homme qui connaît un peu, dans une certaine mesure, évidemment, la précarité, puisqu'il sera obligé, évidemment, quand on sait ça pour la première fois, on se dit à Michel de Saint-Pierre, dis donc, c'est pas très drôle, à être obligé de faire raser son château, pour des raisons oui. Apparemment de difficultés financières.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que c'était le château ne plaisait pas à sa femme.
Ah, d'accord. voilà. C'est plus prosaïque.
Le château avait été plusieurs fois détruit, notamment pendant la chouannerie, puisqu'il y a eu une chouannerie normande, évidemment, et que des ancêtres de Michel de Saint-Pierre étaient dans cette chouannerie. Et donc, le château avait été détruit, reconstruit par un disciple de Viollet-le-Duc, mais il n'avait pas été bien refait, voilà. Donc il y avait une esthétique qui n'était plus là, et donc il y avait effectivement toute une partie qui a été rasée, et je dirais les communs ont été conservés.
Et il a pu y séjourner encore, il a pu y vivre.
Ah oui, il vivait, oui bien sûr.
Et avec sa femme.
La partie qui était conservée, il était très attaché à cette propriété où il était avec son épouse et ses enfants. Et après son décès, la propriété est restée dans la famille, où son épouse a continué à vivre et où ses enfants également.
D'autant plus qu'il devait l'avoir depuis assez longtemps, ce château.
Ah il était vraiment dans la famille depuis, alors je n'ai pas la date exacte, mais effectivement, depuis au moins le 18e siècle.
Ah oui, d'accord. Alors on revient à la dimension religieuse et catholique traditionnaliste de Michel de Saint-Pierre. Il fonde l'association Credo, qui est une association de combat chrétien, antimoderniste, favorable à la liturgie traditionnelle. On a parlé, alors il y a évidemment... toute l'articulation qu'il faudrait faire entre tous les livres de Michel de Saint-Pierre sur la question religieuse et puis ce que je viens de dire, donc on va pas repasser en l'état toute l'évolution, si tant est qu'il y ait une évolution, car il est fidèle absolument à la messe traditionnelle, notamment jusqu'au bout. On en arrive quand même au début des années 80 avec un livre qu'il publie sur l'école libre. Qui est un livre qui paraît dans la collection Albin Michel, c'est collection polémique, pamphlétaire, lettres ouvertes à. Là aussi, comme pour l'Église qu'il critiquait dans la mesure où l'infiltration marxo-progressiste était malheureusement de plus en plus délétère, il constate qu'il faut se battre en faveur de l'école libre. Et alors là, il émet le paquet sans son livre et dans son action pour justement défendre cette école traditionnelle, cette école catholique.
Voilà, alors effectivement, Michel de Saint-Pierre, donc pour resituer un petit peu le problème dans un contexte historique, François Mitterrand est donc élu le 10 mai 1981, il a comme ministre de l'Éducation nationale Alain Savary, vieux cacique anticlérical du Parti socialiste, et François Mitterrand, on va dire fidèle à sa promesse de campagne, veut instaurer un grand service public unifié de l'enseignement, absorbant l'enseignement catholique. Et donc des négociations s'entame entre les représentants de l'école catholique, de l'école libre et le gouvernement. Donc dès le début, Michel de Saint-Pierre dit mais il n'y a pas de négociation parce qu'il n'y a rien à négocier. Il y a une liberté qui est la liberté de l'enseignement. Cette liberté, elle est absolument innégociable, indiscutable. Et très rapidement, Michel de Saint-Pierre se rend compte que finalement, ces représentants de l'école catholique ne sont pas très combatifs, qu'ils ont presque rendu les armes avant de mener le combat et qu'ils vont se faire, je dirais, absorber tout cru par le pouvoir socialiste. Et dès le début, Michel de Saint-Pierre se dit « l'école libre ne sera sauvée que s'il y a une très forte mobilisation populaire ». Il publie un nombre très important d'articles, aussi bien dans le Figaro que dans le quotidien Présent, qui avait été fondé en 1982, notamment par Jean Madiran. Et en 1983, comme vous l'avez dit, il publie cette lettre ouverte aux assassins de l'école libre dans cette collection qui, je ne sais pas si elle existe toujours, mais qui avait cet avantage d'être écrite avec
un peu polémique, un peu pamphlétaire.
Voilà, c'était vraiment pamphlétaire. Voilà, moi, je me souviens avoir lu la lettre ouverte aux contribuables de Jean-Claude Martinez, qui avait été un best-seller.
À la génération Mitterrand qui marche à côté de ses pompes, de Thierry Fister.
Exactement.
Oui, il y en a eu pas mal. Même Denis de Rougemont, même Jean Cot. Enfin, il y en a eu pas mal.
Exactement. Voilà, c'était. Et donc le livre tel qu'il est publié, eh bien, reprend ce ton qui devait être celui de la collection. Donc Michel de Saint-Pierre est à nouveau, notamment par la presse de gauche, notamment par La Croix, à nouveau attaqué pour ce livre, comme il l'avait été lorsque Les Nouveaux Prêtres étaient sortis en 64. Et Michel de Saint-Pierre bien, a la satisfaction de voir que ses appels à la mobilisation populaire finissent par être entendus, puisque ça débouchera après plusieurs manifestations sur la fameuse manifestation du 24 juin 1984, où il y aura entre 1 million et 2 millions de personnes dans les rues de Paris, et le projet Savary devra être retiré, même si, et ça, Michel de Saint-Pierre s'en est rapidement rendu compte, ça a été une victoire à la Pyrrhus parce que finalement, ce que les socialistes voulaient faire passer en force, ils sont quand même parvenus à le faire passer, mais pas par une loi, je dirais, brutale comme la loi Savary, mais par
insidieuse.
Des moyens détournés.
Ouais. Alors, j'ai une question un peu embarrassante à vous poser, mais je ne peux pas ne pas vous la poser, bien que vous ne soyez pas vous-même Michel de Saint-Pierre, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. La défense de l'école libre, c'est la défense de l'école catholique traditionnelle, c'est la possibilité qu'une église publique et une église privée puissent exister. Est-ce qu'en même temps, l'église qu'on appelle l'école libre, est-ce que ça n'était pas aussi d'une certaine façon une école de privilégiés sociaux? Parce que finalement, ceux qui pouvaient avoir accès à cette école-là étaient quand même relativement peu nombreux, et dépourvu d'argent.
Alors, je ne crois pas, parce que si vous voulez, il y avait déjà ce qu'on appelait le système de péréquation, c'est-à-dire que dans la plupart des écoles libres, dans les écoles privées, les frais de scolarité sont adaptés en fonction des moyens financiers des parents. Donc, si vous voulez, contrairement à ce qu'on peut penser, dans les écoles catholiques, même aujourd'hui, et c'est déjà le cas à l'époque, il n'y a pas que, je dirais, des fils ou des filles de personnes extrêmement fortunées. Il y en a, bien évidemment, mais comme il y en a également dans l'école publique, et vous avez tout à fait des personnes issues de milieux plus populaires qui peuvent parfaitement, et qui le font d'ailleurs, mettre leurs enfants dans des écoles privées.
D'accord, très bien. Là aussi, ça nous renvoie aux fameuses valeurs populaires et aristocratiques dont on parlait, chrétiennes, de Michel de Saint-Pierre. Alors, vous avez 4 minutes, Thierry Bouclier. Bon, on va d'abord rappeler que Michel de Saint-Pierre, tout catholique traditionnaliste qu'il ait été, a quand même été hostile au sacre opéré par Mgr Lefebvre dans les années 80, un peu avant de mourir d'ailleurs, d'une certaine façon.
Oui, voilà. Donc effectivement, les sacres qui ont eu lieu le 30 juin 88, donc ont eu lieu un an après son décès, donc quelle position définitive aurait pris Michel de Saint-Pierre semble ne pas le faire, mais effectivement, il y a dans les années 1985-1986-87 toute une correspondance que j'ai récupérée entre Michel de Saint-Pierre et Mgr Lefebvre, où Michel de Saint-Pierre conseille à Mgr Lefebvre de ne pas procéder à ces sacres épiscopaux, car selon lui, c'était presque un piège qui était tendu à Mgr Lefebvre, et il voulait le dissuader de le faire.
Alors, Saint-Pierre et la politique. Très rapidement, Michel de Saint-Pierre est un homme engagé, comme je le disais tout à l'heure, et un homme engagé dans la cité. Quels sont les deux, trois traits qui vous marquent quand vous pensez à Michel de Saint-Pierre, que vous étudiez Michel de Saint-Pierre dans son engagement national et catholique?
Alors, on peut retenir trois choses. Son soutien, donc en 1963, au défenseur de l'Algérie française, où il publie un très beau plaidoyer pour l'amnistie en faveur des partisans de l'Algérie française qui étaient encore derrière les barreaux. Il ira également plaider leur cause directement auprès du général de Gaulle en demandant une amnistie, notamment pour le général Salan.
Sans avoir été dans l'OAS, hein.
Ah, sans avoir été dans l'OAS, ouais, tout à fait. Ouais. Il était ami du général Salan. Et
comme Le Pen, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et il a pris son téléphone, il a demandé à être reçu par le général de Gaulle. Le général de Gaulle l'a reçu à l'Élysée et dans un entretien assez long, à la fois cordial, mais je dirais vif et musclé, Michel de Saint-Pierre a plaidé la cause du général Salan en particulier et de tous les prisonniers politiques en général. Ensuite, il y a eu son engagement auprès de Clixier-Vignancourt
en 1965.
Voilà, lors des présidentielles, où il avait une très grande admiration pour Clixier-Vignancourt. Et là aussi, fidélité aristocratique, c'est-à-dire que Clixier-Vignancourt espérait faire un très bon score, voire être au second tour. Clixier ne fait que 5,09% des voix, donc ça a été une déception. Et Michel Saint-Pierre va rester à ses côtés au lendemain de l'échec. Il y a eu, bien sûr, l'échec ne favorisant pas les ententes, il y a eu des dissensions, mais Michel Saint-Pierre, lui, est resté proche et ami de Michel de Saint-Pierre.
Voilà. Alors, je vais vite avec vous, Thierry Bouclier. Il va voter Giscard en 74 et en 81. Il a failli participer au congrès de l'Eurodroite en 1979, qui était une fusion du PFN, Parti des Forces Nouvelles, et du Front National, qui finalement n'a pas pu se faire, et qui a été justement la liste Tixier-Vignancourt qui a succédé à celle de Saint-Pierre. D'ailleurs, on peut renvoyer à la fameuse phrase de Jean-François Cappe, on avait le Saint-Pierre, mais on n'avait pas l'oseille. Et évidemment, c'est un peu l'arrêt de la politique de Michel de Saint-Pierre, bien qu'il va encore écrire dans l'initiative nationale du PFN et dans le National et National Hebdo de Jean-Marie Le Pen.
Exactement. Mais vous voyez, là, cette fameuse tête de liste qu'il a failli être en 1979 à la tête de la liste de l'Eurodroite, là encore, il n'avait rien à y gagner. Hein. C'était vraiment, là, il se mettait au service d'une cause, au service de ses amis, mais il n'en attendait rien en retour parce que, là encore, de même que pour l'amnistie des prisonniers politiques, il n'avait que des coups à prendre et pas d'honneur à recevoir.
Merci Thierry Bouclier pour ce livre sur Michel de Saint-Pierre, une biographie parue aux éditions Via Romana. Vous êtes à la librairie Duquesne pour dédicacer votre ouvrage le 20, si je ne m'abuse, le 20 juin, à la librairie Duquesne. C'est à quelle adresse déjà ?
Exactement, le 20 juin à la librairie Duquesne, de 14h à 18h, où je dédicacerai effectivement le livre de Michel de Saint-Pierre et puis d'autres livres, notamment, juste avant Michel de Saint-Pierre, j'avais fait une biographie de Roger Nimier aux éditions LIF.
Et de Tixier-Vignancourt aussi.
Et voilà, je dédicacerai aussi Roger Nimier.
Merci Thierry Bouclier et à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Arnaud Guillaume-Janin, dirigé par ce dernier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 11 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn et Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.